Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons à nouveau soumettre nos cœurs à la Seigneurie de Christ, afin qu'à travers l'écoute de ta parole, qu'il règne en nous. Comme nous dit ta parole, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Amen.
Oui, Seigneur, que toute autre voix que la tienne se taise maintenant. Nous voulons t'écouter. Parle-nous. Et bénis-nous à travers l'écoute de ta parole. Que notre être tout entier puisse obéir à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors, ce matin, je vais encore m'appuyer sur le même passage, Apocalypse 12, verset 11, étudié dimanche dernier, en tout cas sur le thème de la victoire sur trois ennemis. Ils l'ont vaincu, le dragon, le serpent ancien, Satan, nous dit le texte, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. La question que j'aimerais poser ce matin, alors, qui sont les vainqueurs? Qui sont les vainqueurs? Oui, si les vainqueurs ne sont pas des conquérants, si les vainqueurs ne sont pas des croisés terrestres, alors qui sont-ils? Oui, nous sommes des croisés terrestres. Nous sommes humains et divins. Dieu a mis en nous la semence divine. Nous sommes des êtres humains, mais nous sommes des êtres spirituels en même temps. Nous sommes des conquérants, nous sommes des croisés terrestres. Les vainqueurs sont simplement, en tout cas les chrétiens qui vivent la vie chrétienne normale. Parce que la vie chrétienne normale que Dieu attend de nous, frères et sœurs, c'est une vie de vainqueur. Ce n'est pas une vie de défaite. Dans ce cas, qu'est-ce que la vie chrétienne normale? C'est une vie qui démontre la prééminence, une vie qui démontre la seigneurie de Christ sur toutes choses. Je veux dire, sur toutes choses. Alors, comment mesurons-nous la victoire d'un côté ou la défaite de l'autre? Qu'est-ce qui caractérise un chrétien comme étant un vainqueur et un autre comme étant quelqu'un de vaincu? En s'appuyant sur Apocalypse 12, donc verset 11, nous avons vu de façon claire, nette et précise dimanche dernier ce qu'est un vainqueur, à savoir quelqu'un qui remporte la victoire sur l'ennemi, sur le dragon, sur Satan. Évidemment, le dragon, c'est le diable. Nous voyons les vainqueurs remporter la victoire dans trois domaines de conflit, en s'appuyant sur le sang de l'agneau, en s'appuyant sur la parole de leur témoignage et sur le fait de ne pas aimer leur propre vie jusqu'à craindre la mort. Sur la base donc d'Apocalypse 11, 12, pardon, verset 11, nous avons identifié ces trois domaines de conflit que sont le péché, le moi et Satan. Nous ne voulons pas nous répéter, sauf pour dire que le sang de l'agneau remporte la victoire sur le péché. La parole de leur témoignage remporte la victoire sur Satan et le fait de ne pas aimer leur vie. Vous voyez, remporte la victoire sur le moi, sur l'égocentrisme, le fait d'être tourné vers soi-même. Tout ce qui vient nous tenter, frères et sœurs, provient de ces trois énergies. Voyez, il ne se présente pas dans un ordre particulier, mais ils viennent constamment. Ils viennent constamment de ces trois, vous savez, moi en tout cas pour ma part, j'avais tendance à penser que Satan était l'ennemi le plus terrible. Voilà ce que je pensais. Mais je sais maintenant que notre pire ennemi n'est pas du tout Satan. Mais le moi. Le moi. Car la seule chose, vraiment la seule force de Satan, c'est de nous faire croire à ces mensonges. À ces mensonges. Il faut d'abord mourir à soi-même. À soi-même avant justement de se mettre à combattre l'ennemi. Il faut mourir. Et c'est pour ça qu'il y a la croix. Il faut d'abord rencontrer Christ à la croix. Avant de chercher à les combattre, l'ennemi. Oui. Ne prenez pas le risque de vouloir combattre l'ennemi si vous n'avez pas encore rencontré Christ à la croix. Notre premier ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. Croyez-vous que Jésus soit plus puissant que le péché? Croyez-vous que Jésus soit plus puissant que Satan? Croyez-vous que Jésus soit plus puissant que le moi? Oui, il est tout à fait clair que Jésus est Seigneur sur toutes ces choses. Évidemment, nous savons qu'il a fait du bien autour de lui, guérissant tous ceux qui étaient oppressés par le diable. Nous savons qu'il a vécu une vie sans péché. Il est venu, dit la Bible, pour détruire les œuvres du diable. Nous savons qu'il n'a jamais rien fait de lui-même ou pour lui-même, mais il a toujours fait la volonté de son Père. Donc, nous pouvons voir clairement que Jésus a eu l'autorité, le pouvoir sur le péché, sur le moi et sur Satan. Pourtant, il y a des réalités dans ce présent monde, dans ce présent univers, qui pourraient en quelque sorte nous faire croire que Jésus n'est pas Seigneur sur le péché, que Jésus n'est pas Seigneur sur Satan, que Jésus n'est pas Seigneur sur le moi. Eh bien, cela nous amène justement au cœur de ce que signifie être vainqueur. Est vainqueur celui qui remporte continuellement la victoire sur le dragon en démontrant, je dis bien en démontrant, la seigneurie du Christ sur le péché, la seigneurie du Christ sur le moi et la seigneurie du Christ sur Satan. Vous voyez, cela n'a rien à voir avec des chrétiens, entre guillemets, élus aux plus hautes places d'un gouvernement soi-disant terrestre. En comparaison, ça c'est une tâche facile, le fait de prendre les urnes, ainsi de suite, mais ce dont nous parlons ici, c'est un conflit, mais un conflit spirituel aux dimensions mondiales, aux dimensions cosmiques. Oui, la croix, c'était un conflit aux dimensions mondiales, cosmiques. Alors, Jésus est-il réellement Seigneur? Bien-aimé, permettez-moi d'illustrer un peu ce conflit. Que se passerait-il si je vous disais que Jésus n'est pas réellement Seigneur? Que va-t-il se passer si j'écris un article dans lequel je suggère que le sang de Jésus, mais en tout cas le sang de Jésus ne peut pas, n'a pas la capacité de nous laver de nos péchés? Ou si je prêche un message dans lequel j'affirme que Satan est en réalité plus fort que Jésus. Vous supposez que je vous envoie un courrier, justement, une lettre dans laquelle je confie que la croix, mais la croix n'a aucun pouvoir. En tout cas, je suis sûr que vous seriez outrés. J'espère que vous me taxeriez même d'hérétique. Et que vous, pourquoi pas, me rejetteriez pour toujours, moi et mes messages, vous vous opposeriez catégoriquement à un tel enseignement de la façon, en tout cas, la plus énergique, la plus radicale. Et je ne pourrai plus jamais peut-être vous parler de ces choses. Vous voyez? Cependant, la manière de vivre de la majorité des chrétiens nous démontre au monde, en tout cas, nous démontre au monde, que Jésus n'est pas réellement Seigneur. Nous n'avons pas besoin de dire de nos lèvres que Satan est plus puissant que Jésus. Nous n'avons pas besoin de confesser de nos lèvres vraiment que le péché est plus puissant que le sang de Jésus. Nous n'avons même pas besoin de dire que le moi est plus puissant que la croix de Jésus. Nous n'avons pas besoin de le dire, mais nous le disons en quelque sorte par nos vies. Chaque fois que nous péchons volontairement, que faisons-nous? Chaque fois que nous péchons volontairement, que faisons-nous? Chaque fois que nous donnons à Satan un avantage sur nous, que faisons-nous? Et chaque fois, toutes les fois que nous faisons passer le moi, notre moi, nous, notre volonté avant Christ, que faisons-nous? Confesser et proclamer la vérité, frères et sœurs, ne signifie rien en soi, si ce n'est pas quelque chose que nous vivons. Quand nous ne démontrons pas la vérité que nous affirmons de notre bouche, en fait, nous proclamons exactement le contraire par nos actions, par nos actes. Nous sommes rompus de ce type de contradiction, en quelque sorte. Laissez-moi prendre un exemple très commun et apparemment innocent, comme l'inquiétude. Vous voyez, la plupart d'entre nous, de temps en temps, ou presque tout le temps, nous nous inquiétons. Nous nous inquiétons à propos de quelque chose, de ceci, de cela. Nous nous inquiétons au sujet de tout cela qu'on aime, au sujet de beaucoup de choses. Pourtant, les Écritures nous disent, mais ne vous inquiétez de rien. Ne vous souciez de rien. Mais pourquoi l'inquiétude est finalement un péché? Je sais que nous la considérons, en tout cas, comme une chose simplement humaine, mais l'inquiétude en réalité implique ce qu'on appelle un manque de confiance en Dieu. Quand il y a l'inquiétude, cela signifie que nous manquons de confiance envers notre Dieu. Autrement dit, c'est croire au mensonge. Nous avons cru un mensonge quelque part. Identifiez le mensonge d'abord et vous pourrez rapidement découvrir la vérité. Identifier le mensonge. Qu'est-ce que le mensonge? Que Dieu, d'une certaine façon, n'est pas suffisant. Qu'il ne va pas, en tout cas, qu'il ne va peut-être pas intervenir en notre faveur, en ma faveur. Ainsi, vous voyez que l'ennemi nous incite à croire un mensonge, que Dieu n'est pas suffisant. Et donc, il nous amène à penser que nous sommes simplement humains. Mais je disais d'entrée de jeu que nous sommes des conquérants. Nous sommes des croisés terrestres. Nous ne sommes pas simplement des humains. Non, c'est parce que la Bible dit. Nous avons en nous la nature de Christ qui, lui, est sorti vainqueur du tombeau, qui, lui, a vaincu Satan. Nous ne sommes pas simplement des humains. De cette façon, nous acceptons quelque chose d'inférieur à la vie chrétienne normale. On appelle la défaite. En pensant que les choses sont tout simplement ainsi. Mais rappelez-vous, Satan n'a pas d'autre puissance que celle que nous lui donnons en croyant ses mensonges. Mais souvenez-vous du récit d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Ils ont cru au mensonge de Satan. Les vainqueurs, frères et sœurs, apprennent à combler le fossé, à combler l'écart entre ce qu'ils disent croire et ce qu'ils vivent dans la réalité. Bien sûr que nous ne critiquons ni ne jugeons les gens qui ont des pensées d'anxiété, nous disant simplement que vaincre, c'est constamment s'opposer au mensonge de l'ennemi et démontrer la suprématie, la domination du Christ sur toutes choses. Christ doit régner sur toutes choses. Quand tout mensonge est détruit, alors le dragon est défait. Car il ne peut pas contrôler ce qu'il ne peut tromper. La plupart des choses que nous voyons, ou même entendons, mais bien oui, c'est une illusion. Je vous parlais de la réalité et de la vérité, mais la réalité n'est pas la vérité. On ne va pas s'arrêter sur la réalité pour dire oui, c'est ça. Mais la réalité n'est pas la vérité. La plupart des choses, je disais que nous voyons, nous entendons, mais sont une illusion. Ce n'est pas la vérité, mais un mensonge, une distorsion de la vérité. On ne peut pas faire confiance à nos yeux et à nos oreilles charnelles. Nous devons avoir une vision céleste et une écoute divine, céleste. Néanmoins, pour le moment, frères et sœurs, nous sommes confrontés à un grand décalage, un large gouffre entre, d'un côté, des choses telles que Dieu les désire, et de l'autre, les choses telles qu'elles semblent être, telles qu'elles semblent se présenter à nous. Nous pourrions en citer toute une liste. Dieu dit qu'il répondra à nos besoins, mais nous regardons et constatons que nos besoins ne sont pas satisfaits. Dieu dit qu'il est la vie de notre corps. Oui, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il est la vie de notre corps. Mais il semble que l'on puisse être, qu'on n'arrive pas, qu'on ne puisse pas être capable de se débarrasser de tout ce qui est maladie, ainsi de suite. Mais il y a dichotomie. Dieu dit qu'il a détruit les œuvres du diable en Christ. Mais nous voyons le diable agit comme d'habitude, peut-être même apparemment imperturbable, et ainsi de suite. Alors, que signifie cela? Eh bien, cela ne peut signifier que deux choses. Et nous avons donc le choix entre deux oppositions. La première est d'abandonner, d'abdiquer et de se contenter de croire que, bon, Dieu, en tout cas, ne fait pas, ne pense pas ce qu'il dit, non, même ce qu'il dit, il ne fait pas. C'est la réponse de la plupart des gens, la réponse la plus fréquente. Et regardez le monde, vous n'avez qu'à regarder le monde, mais que fait Dieu? Il ne peut pas, il est incapable. Voilà. La seconde option est de croire ce que Dieu dit, quelles que soient les apparences. Nous appelons cela la foi. La foi, frères et sœurs, n'est pas une puissance que nous allons utiliser pour changer les circonstances. C'est une assurance, la foi. C'est une assurance que nous possédons à l'intérieur de nous, que nos circonstances soient changées ou non. Ce n'est pas la capacité de modifier les circonstances qui fait de moi un vainqueur, non, mais c'est le fait de vivre, de tracer ma route indépendamment des circonstances. C'est vivre en prenant en compte les choses qui ne sont point comme si elles étaient, je dirais. Si ces choses sont déjà là extérieurement, nous n'avons pas besoin de la foi, n'est-ce pas? En d'autres termes, si je n'ai pas de ressources, je crois toujours que Dieu est tout suffisant. En d'autres termes, si je suis fragile, si j'ai une santé fragile, je crois néanmoins que Dieu est la vie de mon corps. et je le proclame et je le confesse malgré tout ce que je peux vivre. Si je suis attaqué par le diable, même si je suis battu par le diable, en tout cas, je crois pourtant que le diable est défait. Hier, j'étais complètement défait, mais aujourd'hui, j'affirme que Christ est ma victoire. Cela fait de moi soit une personne complètement folle, soit un disciple vivant. La vie chrétienne, normale. Combien de temps faudra-t-il pour que nous puissions voir extérieurement ce que nous avons vu intérieurement par la foi? Combien de temps? Nous ne le savons pas. Mais, frères et sœurs, un mensonge est un mensonge. Qu'on nous le dise une fois ou qu'on nous le dise mille fois, un mensonge est un mensonge. Il ne devient pas plus vrai au fur et à mesure que le temps passe. Un mensonge est un mensonge. Voilà le problème. Nous résistons au mensonge la première fois que nous l'entendons, par exemple, Dieu ne pourra pas à tes besoins. Mais si les choses ne changent pas, nous acceptons, nous commençons à accepter finalement ce mensonge comme étant la vérité. Les choses ne sont pas meilleures maintenant qu'il y a 10 ans, donc peut-être que Dieu nous a oubliés, pas capable de faire ce qu'il a dit, vu que le temps passe. Combien il nous est facile de croire un mensonge, mais c'est autant un mensonge la première fois que nous l'entendons qu'après 100 fois. Alors pourquoi prêterions-nous l'oreille à un mensonge au bout d'un certain temps, alors qu'on l'avait refusé auparavant? Nous devons connaître la vérité. Nous devons connaître la vérité. Pour celui qui est vainqueur, ce qu'il voit extérieurement n'aide ni ne fait obstacle à la vérité qu'il a vue intérieurement par la foi. C'est de cette façon que la vérité est capable de nous rendre libres. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, verset 32. Alors, quelle est la solution pour l'Église? Une Église qui peut rencontrer une défaite quelconque. Quelle en est la solution? Tout cela nous amène donc à la chose suivante. Le Seigneur dit qu'il obtiendra une Église. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une église, disons-le, parfaite. Frères et sœurs, à quand remonte le temps où, en regardant l'église, en tout cas dans son ensemble, vous avez vu cela? Une église parfaite, sans tache, ni ride. À quand? Il y a de bons frères et sœurs qui peuvent décrire ce que l'église est supposée être. On peut en apprendre beaucoup de leur part. De même, il y a aussi de bons frères et sœurs qui peuvent dire aussi ce qui est mauvais dans l'Église et de quelle façon elle s'est éloignée petit à petit du dessein de Dieu. Ce n'est pas difficile en réalité à faire. Mais ils sont bien peu nombreux ceux qui peuvent nous décrire ce que l'Église est. De façon extérieure, pour nous amener justement dans ce que Dieu a prévu que l'Église soit. Comment allons-nous franchir ce mur? Comment allons-nous passer de l'endroit où nous sommes à l'endroit où Dieu nous veut? Vous voyez, Matthieu 28, 19 à 20. Jésus nous dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais remarquez les églises, comment est-ce qu'elles se comportent? Comme si Jésus leur avait dit, allez, faites de tous les quartiers les disciples. Faites de toutes les villes les disciples. Non, Dieu nous a donné les nations. Faites de toutes les nations les disciples. Dieu dit, mais j'étendrai les limites de ta tente. Comment nous nous comportons? C'est comme si notre tente est... Mais Dieu dit qu'il va élargir notre vision. Mais nous regardons là. Voilà comment l'Église, mais comment allons-nous franchir ce mur? Comment allons-nous passer de l'endroit où nous sommes vers l'endroit où Dieu nous veut? Comment? Évidemment, on en parlera d'abord et cela semble être un mystère. Mais le livre de l'Apocalypse, vous voyez, c'est le livre qui révèle les mystères et c'est là-bas justement que l'on nous donne la réponse. Il y a un principe dans les manières de faire de Dieu qu'il nous faut connaître. Et le livre de l'Apocalypse, dans son intégralité, témoigne de ce principe. C'est le suivant. Chaque fois que l'Église est en déclin, chaque fois que l'Église est dans la défaite ou dans le compromis, Dieu n'a qu'un seul, mais un seul remède. C'est d'apporter une fraîche révélation et une nouvelle vision de Jésus-Christ. De Jésus-Christ, Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à son apôtre. Jean. Constamment, Dieu nous recentre sur son Fils. Constamment. Mais parce que nous n'avons besoin que d'une seule chose. Nous n'avons besoin que d'une seule chose d'après Luc chapitre 10 au verset 42. Souvenez-vous de ce récit concernant l'attitude de Marie d'un côté et de Marthe de l'autre. Il est dit au verset 42, une seule chose est nécessaire. Une. Et le texte dit, Marie a choisi la bonne part. La bonne part qui ne lui sera jamais enlevée. Jésus-Christ. Voilà la bonne part. Qui peut vous enlever Christ dans votre cœur? Personne. Personne. Bien-aimés, les vainqueurs sont ceux qui voient Jésus tout à nouveau et d'une façon totalement, constamment renouvelée et qui garde la vision céleste constamment devant leurs yeux. Ne braquez pas votre regard sur ce qui est terrestre. Le plus sûr moyen d'être défait, de connaître la défaite, est de détourner nos yeux de la seule chose et de les fixer sur les nombreuses choses. Voyez, l'esprit de l'Antichrist ne vous demande pas de vous prosterner devant Satan. Mais il espère seulement obscurcir votre vision de Christ. Quand il a réussi de le faire, il a gagné sa partie. De nos jours, le problème de l'Église est qu'il lui manque cette vision de qui est Jésus-Christ. Qui est le Christ? Mais nous l'avons perdu de vue. Et à sa place, voyez, nous avons quoi? À la place de Christ, nous avons des programmes, nous avons des cultes d'Église, nous avons des prédictions sur la fin des temps et leur interprétation multiple. Nous avons des millions d'autres choses. Donc la somme de tout ça égale à combien? Égale à zéro, il faut le dire. Égale à zéro, sans Christ, zéro. Et pire encore, nous pensons que, bon, en tout cas ces choses-là, justement, c'est ça Christ. Mais non, nous nous trompons. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que Jésus marche. Jésus marche au milieu des sept chandeliers qui représentent les sept églises. Le chiffre 7, vous savez ce que ça signifie? Le chiffre de la totalité des églises dans leur perfection. Et c'est important. Tant de gens s'occupent des affaires de l'Église comme si Jésus leur avait confié des affaires courantes. Voyez? Alors que lui resterait dans les coulisses en approuvant constamment voilà, tout ce qu'ils font. En fait, Jésus n'est pas de l'autre côté du rideau, de l'autre côté de l'univers, mais il marche, dit le texte, il marche au milieu des chandeliers, bâtissant, construisant son Église. Et disant justement à chacun d'entre nous, je connais. Mais je connais ton travail. Je connais. Il connaît. J'étais dans l'île de Patmos, dit Jean, à cause du témoignage de Jésus. Ils ont vaincu le dragon par la parole de leur témoignage. Le dragon sont là à faire la guerre au reste, qui gardent les commandements de Dieu. Et le reste qui a le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, frères et sœurs, est l'inspiration de toute prophétie. Nous devrions voir que le conflit tout entier tourne autour du témoignage. Du témoignage de Jésus. C'est le point de convergence entre le ciel et la terre. La croix est là, au milieu. C'est le point de convergence, le témoignage de Jésus. C'est le point de convergence entre la lumière et les ténèbres, entre Christ et l'Antichrist. Mais qu'est-ce que ce témoignage de Jésus? Le témoignage de Christ, c'est la démonstration. Je parle bien de démonstration, pas seulement la proclamation, la démonstration de la vérité concernant Jésus-Christ dans toute sa plénitude, dans toute sa seigneurie. Cela démontre la centralité de Christ dans chaque disciple, dans chaque église et pour finir, dans la création. Mais l'église, mais c'est la seule société de Dieu sur terre pour transformer le monde. Mais Dieu n'a aucun autre plan. C'est à l'église que Dieu a confié le salut des nations. Regardez que chaque fois qu'il y a un réveil dans l'église, c'est d'ailleurs l'exemple de quelques pays dans le monde aussi, chaque fois qu'il y a un réveil dans l'église, il se passe les trois R. Chaque fois qu'il y a un réveil, cela engendre souvent les réformes, comme vous voyez dans la Bible, et ça aboutit à quoi les réformes? Au troisième R, mais à la richesse. Regardez, réveil, réforme, richesse. Mais ça passe par l'Église. Lors des réveils, Dieu donne des plans de réforme pour les nations. Tout au moins pour la nation qui a reçu le réveil. C'est le cas de la Norvège et du Nord. Je me souviens en 1939, dans mon pays d'origine, l'Église a connu un réveil. Mais au cours de ce réveil, Dieu a donné un plan clair de réforme à l'Église. Avec pour priorité l'agriculture. Et un mot d'ordre en ordre, en langue locale, Salah, Samila, et Samila, Salah. C'est-à-dire prier, travailler, et travailler et prier. Un plan clair de réforme basé sur l'agriculture, la construction des écoles protestantes pour ensuite vivre la richesse. Mais oui, Dieu veut bénir les nations. Ça, c'est l'Église. Mais est-ce que vous avez l'impression que l'Église réalise vraiment quel est le but pour lequel elle est sur la terre? Hein? On gère des projets comme ça, là. Mais on a un Dieu qui est grand. On devrait voir grand comme Dieu est grand. On devrait élever notre vision. Oui. Nous devrions justement regarder à Christ. Et c'est ça le témoignage. Le témoignage. Les vainqueurs le voient avant que cela soit pleinement accompli. Et ils s'ajustent eux-mêmes à la puissance merveilleuse de Dieu qui est d'amener toutes choses à l'obéissance de Christ. Voilà ce que Dieu attend. Il le voit comme une vérité présente et non comme un espoir futur. Non, c'est maintenant. Et ce n'est pas d'autres églises, c'est chaque église. Et c'est pour cela qu'ils sont des vainqueurs. Quand nous voyons un Christ qui grandit sans cesse et qui est destiné à remplir toutes choses, alors nous sommes délivrés de notre petitesse et de notre étroitesse d'esprit. Nous n'avons pas la victoire sur une chose en focalisant toute notre attention et en dirigeant nos énergies contre cette chose. Non, les choses nous occuperont toujours du matin au soir. Et du soir encore au matin. Voyez. Mais puisse Dieu nous délivrer des choses et nous montrer son Fils. Nous devons apprendre à garder les yeux de notre cœur fixés sur le Seigneur Jésus qui doit grandir. Il doit grandir. Alors, il n'y aura plus de place pour les choses. Elles seront tout simplement englouties, ces choses-là, dans la victoire de Christ. Il y a plusieurs années de cela, je demandais au Seigneur de m'enseigner au sujet du combat spirituel. Dieu ne m'a pas répondu en m'enseignant sur ce sujet, et je le bénis d'ailleurs de ne pas l'avoir fait. Au lieu de cela, il m'a simplement révélé Jésus-Christ. Jésus-Christ. La révélation était et est encore aujourd'hui suffisante. Bien-aimés, cherchons à connaître Jésus. Cherchons à vivre la vie de Jésus. Cherchons à élever Jésus dans nos vies. Cherchons à élever, à sanctifier Jésus dans nos églises locales. Cherchons à trouver ce qui est réellement dans le cœur de Dieu pour nos vies et pour la vie de l'Église. Nous serons des vainqueurs. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.